collatéral, comme ils le disent. Donc déjà même au départ, l'argent que les États demandaient pour la mise en place du G5 Sahel, jusqu'à présent, très peu est arrivé. Donc moi je pense qu'il faut penser surtout à consolider les armées. Parce que ce soit aussi bien, que ce soit aussi bien au Mali, au Burkina Faso et au Niger, le Niger, je pense, fait très très bien parce qu'ils sont arrivés à réduire les attaques sur le front du sud-est vers Difa, les attaques de Boko Haram. Oui. Donc, mais ici, je pense que le président Issoufou a fait même une sortie où il pointait du doigt la situation de Kidal. Donc, voilà, mais je crois qu'il faudrait que les armées, surtout à l'intérieur du Mali et du Niger, que ces armées-là soient remportées au plan tactique et au plan aussi des moyens. Et il y a une chose que j'ai signalée récemment, c'est que les élites de ces armées, que ce soit au Mali comme les Bérets Rouges, ou bien les anciens gardes de RSP, bon, aussi l'élite des armées de ces pays ont été complètement enlevées. Quoi.
Edris, vous avez un peu parlé des États-Unis. Parlons en fait des forces étrangères ou en tout cas des puissances étrangères, la France, le rôle de la France dans cette région qui fait l'objet de critiques. Ce sont des critiques que vous comprenez ou
non, y a-t-il un amalgame, y a-t-il manipulation de lutte contre le terrorisme? Je pense que c'est de l'amalgame et c'est même injuste. Il faut appeler les choses par leur nom. Parce que la France subit le terrorisme. La France, des gens sont venus à l'intérieur de Paris attaquer au stade de football. Tout le monde se rappelle de les attaques du Bataclan. La France subit le terrorisme. Et que la France vient pour combattre le terrorisme et aider nos pays. Donc je ne vois même pas comment est-ce qu'on peut élever la voix pour dire que ce n'est pas bien ce qu'ils font les Français.
Et Bagassi, en fait, le dernier sommet du G5, Sahel a été clair que ces pays ont besoin de puissance étrangère. Maintenant, peut-être le débat, certaines frustrations, comment est-ce que vous l'expliquez?
Oui, à deux niveaux. D'abord parce que les gens voudraient que ces forces étrangères fassent peut-être le travail à leur place ou à la place de leurs troupes. Et il y a aussi cette confusion sur le rôle des drones, par exemple. Un drone qui est au-dessus de Niamey ne peut pas voir ce qui se passe à une certaine distance. Donc, penser que les drones sont des satellites qui, dès qu'ils sont dans le ciel, peuvent tout voir, voir tous les mouvements. Et c'est ça, c'est cette confusion qui amène à faire des reproches. Dès qu'il y a une attaque, on se dit, oui, mais ils sont là, pourquoi ils n'ont pas vu ça venir? Si vous avez trois drones au-dessus de Ouagadougou, ce qui se passe à 200 km de Ouagadougou, vous ne pouvez pas le savoir, même si 200 personnes sont en moto à 200 km. Vous ne pouvez pas le savoir et après on vient vous reprocher pourquoi vous avez des drones et il y a des attaques, vous n'êtes pas au courant. Il y a un peu toute cette confusion, mais ces forces ne pourront réussir que si elles arrivent à accompagner les armées nationales qui, elles, se mettent devant pour faire le travail.
D'accord. Alors, je dois dire qu'il y a beaucoup de sujets qui ont attiré notre attention cette année. Nous allons passer à un autre sujet, c'est celui des élections et au départ, de l'année 2019, il y a l'élection historique donc de Félix Tshisekedi. Alors je me retourne vers vous, Idriss Fall, la RDC, que vous connaissez également très bien. Que retenez-vous de cette élection de Tshisekedi en RDC?
Bon, il faut dire qu'au début, il y a eu beaucoup de confusion. Il est élu, il n'est pas élu. Alors que la République démocratique du Congo, c'est un pays depuis Mobutu, est allé de crise en crise. Et je crois que la communauté internationale a fini par comprendre que ça suffit, il faut que les gens se mettent au travail. Et Félix Tshisekedi est devenu président et en un an, il essaie de changer les choses. Je sais que ce sera difficile parce qu'une tradition de près de 50 ans de corruption, de vol, de viol, de rébellion, ça ne se change pas en un jour. Mais au moins changer de ton, changer la manière de faire la politique pour que les Congolais, qui est un pays immensément riche, puissent commencer à en profiter, parce que depuis Mobutu, le Congolais moyen, c'est la dèche.
Oui, Bagassi, hein, il faut dire que le processus n'a pas été facile et l'opposition est arrivée au pouvoir, même si le scénario qu'on a, c'est qu'il y a une coalition FCC-CACH. Que vous inspire ce scénario qui, il faut le dire, est assez inédit quand même en Afrique?
Oui, un scénario inédit, mais il faut saluer cette alternance. Hein, c'est toujours bien d'avoir de nouveaux hommes. C'est vrai qu'on aurait voulu que, ou du moins le pouvoir aurait voulu avoir les coups de France, avoir un contrôle du Parlement, pouvoir faire des réformes qu'il voudrait, mais cette situation avec les forces de Kabila qui ressemble beaucoup plus à une embuscade, parce qu'on s'est dit peut-être que d'ici les prochaines élections, elles vont monter en puissance et peut-être que elles vont créer toutes sortes de difficultés, et pour en arriver là, il peut y avoir des empoignards sur le projet de Tshisekedi. Est-ce que cette opposition-là va le laisser travailler facilement, et c'est ce qu'il faut peut-être craindre, quoi, que les forces politiques n'arrivent pas à s'entendre pour faire avancer la RDC.
D'accord, et c'est vrai que Idriss, l'insécurité persiste dans l'est du pays, mais le Kassai a retrouvé plus ou moins le calme.
Et travail de l'armée congolaise. Mais je pense que les rebelles ougandais des ADF, les multitudes de groupes de Maïmaï dans l'Est, je crois que les forces armées de la RDC ont commencé une offensive. Et je pense dans le long terme, elle sera salutaire. Parce que quand même, les gens qui opèrent là-bas connaissent la région aussi bien que les rebelles eux-mêmes. Et c'est une région où tous les groupes rebelles sont passés par là. Voilà quoi. Donc, et que moi, j'ai bon espoir quant à au moins pacifier l'est de la RDC, parce que comme c'est un immense pays, il y a le nord Kivu, le sud Kivu et un peu en Ituri où il y a ces poches de rébellion et de violence qui continuent et même qui ont des effets sur l'épidémie d'Ebola.
Voilà, merci beaucoup Idriss. Alors, Washington Forum, c'est la rétrospective 2019. Un autre sujet dans cette rétrospective, c'est la question des troisièmes mandats. Je commence avec vous, Bagassi. C'est un sujet qui brûle en ce moment. C'est un sujet brûlant en Côte d'Ivoire, en Guinée, même si les principaux concernés n'ont pas dit clairement s'ils vont se représenter ou pas, n'est-ce pas? Le président Alpha Condé et Alassane Ouattara notamment. Comment est-ce que vous voyez tout ça?
Oui, mais tout ça, c'est du déjà vu. On a vu ça avec Compaoré, où on a parlé d'une loi qui n'est pas rétroactive. On a vu ça sous d'autres contrées, et là encore on est en face de ça en Guinée, et peut-être en Côte d'Ivoire, on ne le sait pas encore, mais c'est-à-dire que le troisième mandat en soi, ce n'est pas un problème. Tant que les choses fonctionnent normalement et que les citoyens ont confiance aux institutions. Mais le problème, c'est qu'on est dans des situations où ceux qui sont au pouvoir ont toujours une longueur d'avance, utilisent les moyens de l'État, ont tout l'appareil étatique pour avancer. Et donc, quand il y a un troisième mandat, du coup, on s'est dit, on ferme la porte à toute alternance. Même si on n'est pas satisfait de la manière dont le pays fonctionne, on ferme la porte à toute alternance.
Il faut ajouter quand même que le troisième mandat, c'est pas nouveau.
C'est
dans l'air du temps. Oui, bon, si on va à Brazzaville, il y en a qui sont là depuis 40 ans. Bon. Au Cameroun, pareil. Mais il faut noter que quand même la Mauritanie et le Niger, ils ont fait leurs deux mandats, ils ont dit merci, je m'en vais. Mahamadou Issoufou, Aziz aussi.
Idriss, pourquoi les révisions constitutionnelles et les conflits surgissent tout le temps à la veille d'élections? Est-ce que ce n'est pas un problème qu'il faut dépasser?
On veut bien. Celui qui dame le pion dans les changements de constitution, c'est mon homonyme, Idriss Déby Itno. Tous les 5 ans, ils changent de constitution pour rester encore sur place. Voilà, et que ailleurs, ils n'ont même pas besoin. Sassou Nguessou, il est au pouvoir depuis combien de temps? Je ne sais même plus. Paul Biya, il est au pouvoir depuis combien de temps? Je ne sais même plus. Donc, c'est dans l'air du temps où il faudrait qu'en Afrique, les gens apprennent à ne pas changer de constitution tous les 2 jours et comme ça, le prêt pour rester au pouvoir. Parce qu'être président, ce n'est qu'une fonction. Et il faut être bien entouré, faire ton travail. Si tu ne le fais pas bien, tu pars et laisser à quelqu'un d'autre.
Vous évoquiez la Mauritanie. Aziz, c'est vrai, a fait ses 2 mandats, il est parti. Là, il est en conflit avec son successeur qu'il a lui-même désigné, Oldou Gazouani. Est-ce que ce n'est pas un peu ce qui fait peur aussi à ceux qui sont au pouvoir?
Beaucoup d'entre eux, ils pensent que oui, j'ai fait de toi mon dauphin, donc quand tu arrives au pouvoir, tu dois continuer à être mon poulain. Alors que ça ne marche pas, le monsieur, il est élu.
Oui, et vous aviez quelque chose à dire?
On ne tire jamais le leçon de ce qui s'est passé. C'est un peu comme, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Compaoré, et avant son tour, était au Niger pour dire aux gens qu'un troisième mandat, c'est pas bien. Il était à Tanja notamment, il a été conseillé dans d'autres situations. À son tour, il dit oui, il me faut un troisième mandat. Alpha Condé était opposant éternel, il a fait marcher des jeunesses dans son pays, mais aussi un peu dans la sous-région, et aujourd'hui, à son tour, il ne tire pas les leçons.
En tout cas, 2020 sera très intéressant à suivre sur, en matière de processus politique. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum, Abdourahman Dia à la présentation. Je rappelle nos invités Idriss Fall, rédacteur en chef à VOA Afrique, et Bagassi Koura, rédacteur en chef de la section Bambara ici à VOA Afrique. Alors, nos téléspectateurs, avant d'aller aux réactions Facebook, nous avons quand même d'autres sujets assez intéressants que j'aimerais visiter avec vous. Ce sont d'abord ces mouvements en Afrique qui prennent différentes formes. En Algérie, par exemple, Bouteflika est parti, mais la rue n'a pas réussi à déboulonner ce qu'elle appelle le système, n'est-ce pas? Et même le général Gaïd Salah, qui est décédé lundi, a tenu le processus jusqu'au bout, malgré toutes ces manifestations. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous?
Mais cela veut dire qu'il y a une rupture entre la classe politique algérienne et les populations. Cela vous dit, c'est la preuve, le taux de participation est assez révélateur.
C'est une sanction, ça.
Quoi, que M. Gaïd Salah, qui vient de mourir, a tenu à faire ses élections, les gens ne sont pas sortis voter. Donc maintenant, qu'est-ce que Tebboune va faire pour essayer de racoler les morceaux? Ça, c'est un autre défi. C'est le même défi qui s'était posé en Algérie dans les années 90, où le Front islamique du salut était devant tout le monde. Donc, c'est ça le problème. Et c'est la même chose qui se passe au Soudan. Au Soudan, Omar el-Béchir est parti. Il y a une partie de l'armée qui a voulu faire ce que les Algériens ont fait. C'est la rue qui n'a pas voulu.
Et là,
donc,
oui.
On est dans une phase de transition au Soudan aussi, pareil.
Bagassi, la rue, hein, elle est fondamentale. Vous êtes burkinabé, vous l'avez vu en action.
Ouais.
On le voit encore en Algérie, même s'ils n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire de balayer tout le système, ce qui est d'ailleurs très difficile.
Oui, parce qu'au Burkina, ils avaient ce slogan-là qui peut être résumé un peu partout. Hein. Plus rien ne sera comme avant. Et les gens qui descendent dans la rue veulent que les choses soient changées de fond en comble. Et malheureusement, ils doivent faire face à la même classe politique, aux mêmes dirigeants politiques qui souvent ont été ministres pendant des décennies, qui sont toujours dans des partis politiques, qui doivent, lorsqu'il y a des élections, ce n'est pas ces jeunes qui sont dans les rues qui sont les mieux préparés pour se présenter. Et du coup, c'est les mêmes politiciens qu'on ne veut pas qui se retrouvent là.
Bien que le cas de la Tunisie assez.
Si vous le permettez, on va aller très vite, on va aborder un autre sujet très brûlant qui a d'ailleurs été remis au bout du jour cette semaine, c'est le Front CFA, le débat sur le Front CFA qui a été relancé à l'occasion de la visite du président Macron en Côte d'Ivoire. Le Front CFA qui va être remplacé par l'ECO. Idriss Fall, une bonne nouvelle pour vous?
Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle et que j'ai confiance aux autorités ivoiriennes, parce que le président ivoirien, n'oublions pas que c'est un ancien patron de banque centrale, il sait de quoi il parle. Le débat sur le franc CFA, moi, je ne le prends pas sous l'angle émotionnel comme le font certains en brûlant des billets de... C'est une question technique de fond, c'est une question historique, c'est une question économique. Donc, si c'est pas bien traité, c'est toutes les économies qui vont se casser la gueule. Donc, j'ai confiance. Je pense qu'il faut un premier pas en tout. Même si pour le moment, c'est une structure politique, Je pense qu'il faut du temps pour construire une monnaie. Même l'euro ne s'est pas fabriqué en un jour, encore moins le dollar américain. Et donc, voilà.
Oui, et vous, Bagassi, la passion autour de ce débat sur le CFA, vous en dites quoi?
Ben, moi, je pense que c'est un moment historique. Hein. L'Afrique qui va finalement, ou du moins l'Afrique de l'Ouest, qui va finalement avoir sa monnaie. Je vois que des gens, même des économistes, font un problème sur la question de la parité.
Peut-être et certains ils voient la forme, le fait que ce soit Macron et Ouattara.
Comme je le disais, si vous recherchez quelque chose depuis des années, finalement, même si on vous le tend, quelle que soit la manière dont on vous fait la passe, l'essentiel c'est de marquer le but et dire que bon, vous ne mourrez plus. Ça, on peut le dire à la France, peut-être, si on, pour ceux qui ne sont pas contents du franc CFA. Mais je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp des Africains. C'est à nous de se réorganiser et voir comment est-ce que cette monnaie-là va nous servir. On n'aura plus affaire au trésor français, on n'aura plus affaire à 50%
de représentants de la France au niveau du conseil d'administration.
C'est à nous et c'est plus la peine de passer le temps à faire des récriminations. Je pense qu'on peut avancer maintenant et décider pour nous-mêmes.
Mais je pense qu'il faut que les gouvernements gagnent d'abord la bataille de l'opinion publique. C'est important.
Mais l'opinion publique, c'est qui?
Ben, c'est le public.
Mais c'est le public. Il faudrait que les gens qui informent puissent savoir de quoi ils parlent, c'est-à-dire ne pas laisser une marge à la manipulation. Et que vous avez vu la sortie de Patrice Talon, non, sur et c'était bien avant ça. L'écho a été annoncé bien avant ça. Donc les gens qui sont en train de marcher plus tranquillement pour nous amener maintenant à faire l'annonce, ils savent de quoi ils parlent. Hein. Moi, je ne suis pas monétariste. Oui.
Alors, je pense qu'une chose qui échappe encore aux gens, et qui frustre certains qui l'ont perçu, c'est que cet écho, j'ai le fort sentiment que ça risque d'être la monnaie de l'UEMOA. Et pas de la CEDEAO. Quand vous écoutez techniquement, on parle bien des 8 pays, alors que du côté de la CEDEAO, ça n'a pas été conçu comme ça. Parce que le Nigeria a dit, sa ministre des Finances l'a dit il y a 2 semaines, qu'on ne peut pas lancer l'écho en 2020. Samedi à Abuja, Bouhari a répété qu'on ne peut pas lancer l'écho en 2020. C'est que le Nigeria n'a pas la même pression que Macky Sall et Alassane Ouattara, dont les populations ne veulent plus du CFA, qui ne veulent plus attendre. Donc c'est pourquoi l'UEMOA a voulu accélérer et ne pas se soumettre au calendrier nigérien. Voilà. Et du coup, il y a un peu cette fissure là, je ne sais pas s'ils pourront recoller les morceaux, mais il fallait satisfaire la demande de la population.
En tout cas, on verra ce qui va se passer en 2020. On va peut-être se quitter avant d'accueillir Yacouba Ouédraogo. Peut-être un mot pour les téléspectateurs, les auditeurs de VOA Afrique, en cette fin d'année, rapidement.
Je vous dirai bonne et heureuse année à tous et je vous souhaite une excellente année 2020. À vous, à vos enfants, à vos familles. Et j'ai quand même une petite pensée pour tous ces soldats qu'on a tués au Niger, au Mali et au Burkina et qui sont morts pour défendre la cause de la liberté.
Merci. Ouais. Ben, c'est juste souhaiter une meilleure année 2020 à tous nos auditeurs. Hein, continuez à rester fidèles à VOA Afrique et nous vous en remercions infiniment.
Merci beaucoup, Idriss Fall et Bagassi Koura. Alors, nos téléspectateurs ont été très nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore Ndjamena écrit que l'événement qui m'a marqué en 2009, ce sont les attaques djihadistes à répétition, car ils ont fait assez de dégâts et de matériel, de dégâts humains et matériels plutôt. Alphonse Mbouaki à Kinshasa estime que parmi les événements les plus marquants, il y a la déchéance du président soudanais Omar el-Béchir après 3 décennies de dictature. Son départ du pouvoir était inattendu. Il s'en est suivi donc une manifestation contre l'armée qui cherchait à voler la victoire du peuple. Pour Mamadou Seydou Diallo, la volonté d'Alpha Condé de modifier la constitution pour remettre les compteurs à zéro et briguer un nouveau mandat est l'événement le plus marquant de l'année 2019, car c'est un fait qui reflète la réalité dans presque tous les pays africains. Et puis Lamberson Thiele à Mbujima, c'est en République démocratique du Congo. Il estime que l'événement qui l'a le plus marqué en 2019, c'est la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre un président et un membre de l'opposition, marquant la première alternance pacifique en République démocratique du Congo. Voilà donc quelques-unes des nombreuses réactions de nos téléspectateurs et auditeurs donc sur la page Facebook de VOA Afrique. On va passer tout de suite à la rétrospective de l'actualité sportive avec Yacouba Ouattara. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane et bonsoir à tous.
Voilà, donc Yacouba, il y a eu des événements sportifs qui ont marqué l'année 2019 et on commence donc par cette grande fête du football africain qui s'est déroulée en Égypte.
Abdou, vous l'avez bien résumé, donc ce fut le grand moment de joie sur le continent africain. Et vous l'avez remarqué, l'Algérie a vécu une parenthèse enchantée, on va le dire comme ça, parce que les Algériens étaient habitués à descendre dans la rue pour porter leurs revendications. Et l'espace d'un été, lors de cette
soirée-là, c'était en pleine manifestation.
Oui, en pleine manifestation, bien sûr, contre le régime de Bouteflika. Et donc, en l'espace, bien sûr, d'un été, et donc durant cette CAN 2019, l'Algérie est montée sur le toit du monde. Du coup, les manifestations étaient tournées beaucoup plus, bien sûr, du côté de la joie, que cela, en fait, ce sacre offrait, bien sûr, aux Algériens, près de 30 ans, on va le rappeler, après leur dernier unique titre continental.
Tout à fait. Et toujours en football, l'Espérance de Tunis qui a remporté le trophée de la Ligue des Champions après une grosse polémique.
Hein. Oui, Abdou, après une bataille sur le terrain contre le Wydad de Casablanca, et ensuite une procédure juridico-administrative qui a finalement consacré les Tunisiens de l'Espérance. On se rappelle 1-1 à l'aller à Casa, 1-0 au retour à Tunis lorsque le match a été interrompu par l'arbitre gambien suite à des protestations de joueurs marocains pour l'absence bien sûr de VAR. La suite on la connaît. La CAF a décidé que l'Espérance de Tunis est vainqueur. Après elle est revenue sur sa décision. Non, on va rejouer le match sur un terrain neutre. Les deux équipes se sont pourvues auprès du tribunal arbitral du sport qui les a renvoyées à la CAF pour bien sûr trancher. Et finalement l'Espérance est sortie vainqueur. Donc une gestion catastrophique quand même du football continental durant cette période-là.
En tout cas le meilleur niveau de
pas du tout, pas du tout. Et vous l'avez suivi, tout cela combiné aux accusations de corruption au sein de l'instance, eh bien, la conséquence était la nomination de Fatma Samoura comme délégué général de la CAF pour auditer l'institution.
Tout à fait. Et on reste en football. Hein. Cette fois-ci, en Europe, avec la Ligue des Champions, ce qu'ils appellent le You Will Never Walk Again. You Will Never Walk Alone, n'est-ce pas, de Liverpool, qui a porté le club sur le toit de l'Europe.
Oui, Liverpool et ses Africains, vous l'avez suivi, le Sénégalais Sadio Mané, l'Égyptien Mohamed Salah, le Guinéen Naby Keita ou encore le Camerounais Joël Matip. Liverpool, donc, champion d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions, ce qui avait cela un combiné avec les prestations XXL de Sadio Mané surtout, donc avait donné un peu d'espoir à l'Afrique de voir un ballon d'or africain enfin près de 25 ans après George Weah en 1995. Espoir déçu à l'arrivée, c'est Léo Messi qui a été sacré ballon d'or 2019. Beaucoup de polémiques sur le continent. Léo Messi reste avec ses ballons d'or.
Ce que beaucoup aiment en Afrique, c'est que Liverpool est une équipe très africaine.
On aime cette équipe-là parce qu'elle est très africaine, elle est portée par ses Africains. Et voilà.
Oui, tout à fait. À l'international, avant de nous quitter, il est impossible de passer sous silence ces instants magiques vécus lors du mondial féminin remporté en France par les États-Unis.
Oui, Abdou. Les États-Unis, avec un visage désormais collé au football féminin, celui de Megan Rapinoe, qui a fini championne du monde avec Team USA, mais aussi qui a remporté le titre de meilleure joueuse du tournoi, meilleure buteuse, ballon d'or féminin 2019, meilleur sportif, donc sportif de l'année 2019, grâce au magazine, bien sûr, Sport Illustrated. Donc, beaucoup, beaucoup d'émotions vécues durant cette Coupe du monde féminine, même si les équipes africaines n'ont pas brillé, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Cameroun, sont totalement passées à côté.
Voilà, merci beaucoup, Yacouba. Une très bonne année 2020.
Merci beaucoup
pour vos téléspectateurs.
Mais écoutez, les rendez-vous, vous les connaissez. En avril, déjà, on aura le CHAN, donc le championnat d'Afrique des Nations 2020 qui va se dérouler au Cameroun du 4 au 25 avril. Après voilà. Ça, ce sera les Jeux Olympiques bien sûr d'été à Tokyo et donc des moments encore sportifs.
Rendez-vous à suivre. Merci beaucoup Yacouba. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à tous nos invités qui étaient là et vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et notre page Facebook sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. Bonne fête de fin d'année, bonne année 2020, à très bientôt, au revoir.